France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
C'est vrai que si je regarde les films en streaming, au lieu de les télécharger, c'est un peu comme si je laissais partout et tout le temps les lumières allumées. Est-ce que c'est vrai que scroller sur les réseaux sociaux, c'est à peu près aussi néfaste que de rouler en SUV? Est-ce que c'est vrai que ça change quelque chose si je jette régulièrement mes mails inutiles? En clair, est-ce que cliquer, c'est polluer? C'est le titre d'un petit ouvrage que j'ai entre les mains, bien utile aux plus jeunes, qui sont aussi ceux qui font l'utilisation la plus intensive d'Internet. Alors, est-ce qu'Internet est un gouffre énergétique? Est-ce qu'on parle de notre usage ou est-ce qu'on parle des outils qui nous sont désormais indispensables? Qu'est-ce qui est le plus grave? Est-ce que c'est le streaming énergivore ou le fait de changer de PC tous les 3 ans? Est-ce qu'on parle des fermes de minage, des bitcoins? Est-ce qu'on a envie de savoir ce qui se passe derrière notre tablette? Est-ce qu'on a envie de savoir comment on extrait les métaux rares qui sont une partie indispensable de nos téléphones? Est-ce qu'on peut être sur Internet tout le temps mais décroissant numérique? Faut-il nous dénumériser comme on s'arrête au fond de prendre l'avion? Comment progresser pour être plus propre, mieux recycler nos appareils? Qu'est-ce qui nous reste à inventer? Puisque, objectivement, on va pas se remettre à pédaler pour se connecter. Hein, disons les choses franchement. Allez, on en parle ce soir. C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et le premier, Alexandre, c'est vous. Bonsoir, soyez le bienvenu.
Bonsoir, merci.
On vous écoute, Alexandre.
Écoutez, moi, quand j'ai entendu le sujet arriver, en fait, j'ai appelé directement votre service, puisqu'en fait, je pense être assez concerné par ce sujet-là, dans la mesure où mon métier, en fait, n'y échappe pas, et puis où je suis assez sensibilisé à l'impact environnemental. Donc, en fait, j'avais deux...
Attendez, vous faites quoi comme métier? Parce que vous dites que votre métier vous concerne, vous faites quoi comme métier?
Bien, je suis consultant en solutions numériques.
Ah oui, d'accord. Ok. Donc effectivement, ouais. Vous êtes très très bien concerné. On vous écoute, Alexandre.
Donc en fait, je voulais aborder deux aspects avec vous. Le premier, en fait, qui concerne le hardware, puisqu'en fait, il y a là, quand on parle d'impact environnemental, on va forcément se préoccuper des émissions de CO2, hein, puisque c'est le premier facteur d'impact environnemental aujourd'hui. Et donc sur la production du matériel en fait qui nous sert à nous connecter, effectivement on est en fait aujourd'hui dans une course à la surenchère en termes de matériel, entre d'un côté les logiciels qui sont toujours de plus en plus puissants, qui nous permettent de calculer toujours de plus en plus de choses, et pour faire tourner ces logiciels, il faut évidemment du matériel qui évolue sans arrêt et qui nous oblige à faire pas mal de déchets et à pomper un petit peu la planète par rapport à tout ça.
Ouais.
Voilà, donc ça, bon, je pense que le raisonnement, il est assez connu, on sait rapidement comment ça marche, hein, voilà, donc effectivement, on est malheureusement dans un monde de consommation. Mais d'un autre côté, en fait, il y a aussi quelque chose qui est beaucoup moins abordé, c'est la différence entre le stockage de la data et le calcul. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous stockez de la data quelque part, vous la stockez sur de la mémoire qui est dite morte. Donc, vous enregistrez quelque chose sur un disque dur, vous débranchez le disque dur, il n'est plus alimenté, mais par contre, vous ne perdez pas votre data. D'accord. Derrière ça, en fait, vous avez tout ce qui concerne le calcul, donc le streaming. Dès que vous utilisez en fait une source de calcul quelque part, en fait, vous allez consommer de l'énergie. Quand vous stockez des photos quelque part, en soi, la photo, tant que vous la regardez pas, j'ai envie de dire, elle consomme pas grand-chose. Si ce n'est que effectivement, on va les stocker sur des choses en fait qu'on appelle quelquefois maintenant le cloud, sur des serveurs en fait qui vont nécessiter inévitablement une alimentation en continu, mais j'ai envie de relativiser ça parce que effectivement cette alimentation, si c'est pas vous qui l'utilisez, en fait c'est quelqu'un d'autre.
Ouais, on a bien compris ça, Alexandre. Pardon. Est-ce qu'il y a une question derrière ou c'était juste un constat en fait sur à la fois, donc vous l'avez bien dit, comment on fait tourner le matériel, donc le matériel qu'on achète, est-ce qu'il est vite obsolète, faut-il en changer tout de suite, etc. Et aussi donc le stockage des données. Est-ce que j'ai bien résumé? Est-ce qu'il y a une question derrière ça?
Alors moi, non, j'avais pas forcément de questions. En fait, je voulais juste amener le sujet en fait, justement, de la différenciation entre le calcul et le stockage.
Et c'est bien amené parce que vous avez bien raison. Il y a ces deux choses à prendre en compte, ce qui consomme vraiment, ce qui nécessite beaucoup d'énergie, ce qui en nécessite moins, ce qui est réellement et définitivement polluant, et peut-être ce qui l'est moins, ce dont on peut se passer et ce dont on ne peut pas se passer. Merci pour cette entrée en matière, Alexandre. Pour en parler parler tous ensemble autour de cette table, il y a Julie Martin d'abord, bonsoir.
Bonsoir.
C'est vous l'auteur de Cliquer, c'est polluer à 404 éditions, comme 404, comme les erreurs 404. C'est voilà, c'est bien joué. C'est un collectif qui a écrit ce petit bouquin que j'ai entre les mains. On va le feuilleter dans un instant. Et Frédéric Bordage est là aussi. Bonsoir, monsieur Bordage.
Bonsoir.
Vous êtes expert indépendant, spécialiste justement du numérique responsable. Je vais vous poser la question à tous les deux. Alors évidemment, évitez de me répondre les deux, mon capitaine, mais oui, il y a ces deux aspects-là. Il y a le matériel et puis il y a tout ce qu'on brasse en fait avec Internet. Le plus grave, est-ce qu'on dit qu'il y a quelque chose de plus grave que l'autre, Julie Martin, ou pas?
J'aurais tendance à dire qu'effectivement, il y a quand même un truc qui est plus grave que l'autre, c'est le matériel. Mmh. C'est l'impact, effectivement, de la fabrication, de la distribution de nos appareils, l'extraction notamment des terres rares, des métaux rares qui les composent, qui est hyper énergivore, qui a donc, au-delà des impacts carbone, des impacts environnementaux plus globaux, des impacts sociaux plus globaux. Donc voilà, le gros de l'empreinte carbone aujourd'hui du numérique dans le monde, c'est vraiment la fabrication des appareils. Ensuite, néanmoins, ça n'empêche pas que le stockage des données ou le fait d'avoir des ordinateurs qui tournent non-stop pour miner de la crypto-monnaie, par exemple, ça reste aussi une énorme préoccupation en termes de consommation d'électricité.
Et on viendra effectivement à ces deux aspects parce que, effectivement, c'est là que le nœud des problèmes. Frédéric Bordage, la réponse simple à apporter, c'est il faut plus recycler, ce qui est une réalité. Il ne faut pas jeter un téléphone quand il a juste une vitre qui est cassée, ce qui est une réalité. Mais ce que disait notre auditeur est aussi réel. Un moment pour faire tourner les entreprises, pour faire tourner tout ça, parce qu'on ne parle pas seulement de nous tentant de télécharger Obi-Wan Kenobi. Enfin, c'est quand même beaucoup plus vaste que ça. Quand on veut faire tourner le matériel, il faut parfois le changer plus souvent. Comment on fait pour éviter ça? Est-ce qu'il y a un moyen d'éviter ça? Parce que de faire en sorte qu'on puisse, même avec un vieil outil, faire tourner des choses ultra-modernes.
Il y a deux solutions qui sont très simples. Enfin, en tout cas pour la première, c'est le réemploi. C'est-à-dire qu'avant de chercher à recycler, c'est-à-dire détruire un équipement qui fonctionne encore pour en récupérer les matériaux, il faut chercher à lui donner une seconde vie, comme on le fait pour une maison ou pour un véhicule, pour une voiture. Et donc quand une entreprise se sépare d'un ordinateur qui ne serait plus assez puissant ou d'un smartphone, alors souvent il est encore assez puissant cet ordinateur ou ce smartphone pour un autre usager. Et donc il faut absolument développer le réemploi, c'est clairement le geste le plus efficace pour réduire notre empreinte numérique. Ça, c'est simple, c'est efficace, tout le monde peut le comprendre et le mettre en œuvre.
Est-ce qu'on peut contourner ce message qu'on a régulièrement et qui nous dit, Frédéric Bordage, on ne peut plus faire les mises à jour? Est-ce qu'on peut contourner ça et faire fonctionner quand même un ordinateur, y compris donc avec des outils extrêmement neufs, alors que l'ordi nous affiche que il faut faire les mises à jour et vous êtes trop vieux pour faire les mises à jour?
Alors, c'est plus compliqué sur la couche logicielle, tout ce qui est le software, en fait, pour répondre un peu à ce que disait Alexandre en introduction. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de contraintes réglementaires qui sont en train d'arriver très progressivement dans le monde, en France, en Europe, qui, on l'espère, va contraindre les éditeurs de systèmes d'exploitation, Android sur un smartphone, Windows sur un ordinateur, etc., à contraindre ces éditeurs à nous fournir des mises à jour plus longtemps pour qu'on puisse tout simplement faire fonctionner notre ordinateur plus longtemps sans être exposé à des failles de sécurité ou à des bugs. Par contre, je ne peux que déconseiller de ne pas mettre à jour un ordinateur quand on n'est pas un informaticien professionnel parce qu'on s'exposerait à des risques de vol de données ou autre. Et donc, voilà, je peux pas donner ce conseil-là. Ce qui est clair, c'est que c'est la législation, autant le réemploi, c'est l'individu ou l'entreprise qui peut le mettre en œuvre. On a besoin que ce soit vous, les auditeurs, auditrices, qui le mettiez en œuvre. Par contre, sur la mise à disposition longue de systèmes d'exploitation et de logiciels qui fonctionnent longtemps, et on a dissocié des mises à jour qui permettent de faire fonctionner longtemps, de mises à jour plus cosmétiques, c'est clairement les pouvoirs publics qui doivent légiférer en Europe, dans le monde et en France.
Et ce qu'il faut souligner quand même, c'est que c'est en Europe, comme souvent d'ailleurs, qu'il y a un certain nombre d'avancées qui existent, Julie Martin, et qu'on semble y travailler beaucoup plus qu'ailleurs.
Oui, effectivement, en 2021, il y a une loi qui a été votée et qui est assez historique pour le numérique responsable en Europe, au niveau de l'Union européenne, qui vraiment va faire en sorte, on l'espère, de lutter concrètement contre cette obsolescence programmée dont on se parle, c'est-à-dire qui va effectivement peut-être arriver à forcer les grands éditeurs à ne faire que des mises à jour, c'est ce que disait Frédéric Bordage à l'instant, à ne faire que des mises à jour, enfin à n'obliger que des mises à jour qui sont vraiment super importantes et qui aident en termes de sécurité et qui sont pas les mises à jour cosmétiques qui aujourd'hui se mettent à faire ramer nos équipements et qui nous poussent à en changer. Il y a aussi tout un pan à réfléchir autour de la réparation de nos appareils, parce que au final on a quand même cette tendance à se dire, une fois qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, hop, on ne pense même pas à la case réparation. C'est un vrai changement de paradigme là-dessus qu'il faut qu'on ait, et un vrai changement de réflexe.
J'oublie pas que dans la question d'Alexandre, il y avait aussi des choses sur les datas et notamment sur le streaming, mais je voudrais d'abord qu'on rejoigne Valérie au standard. Bonsoir Valérie.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je vous remercie de prendre mon appel et je suis toujours très intéressée par vos émissions. Écoutez, moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que j'ai entendu, le stockage, l'obsolescence programmée. Je suis utilisatrice d'un outil informatique depuis longtemps. J'ai un ordinateur qui a 11 ans, sous Windows 7, que j'ai équipé, puisqu'on m'en donnait l'occasion, mais j'ai regretté, de Windows 10, et il marche plus très bien depuis, mais je fais avec et je me débrouille très bien avec mon téléphone sous Android. Je voulais aussi dire que les mails, on s'en envoie un peu à tort et à travers, et que ça se stocke, et pour se stocker, il faut qu'ils aillent quelque part, hein. Ça on va pas comme ça dans la nature, donc je pense que tous ces grands espaces qu'on doit organiser pour le stockage des données, il faut y penser. Je veux dire, ça transforme aussi nos paysages. Enfin voilà, les mails, il faut les utiliser à bon escient et essayer de s'équiper en fonction de ses besoins, quoi. Pas aller à d'équipement qui peut paraître un peu trop pour ce dont font certaines personnes comme moi. Moi, j'ai une utilisation comme tout le monde, mais j'essaie de faire avec ce que j'ai et toujours me tourner vers l'occasion pour mon téléphone, pour mon ordi. Voilà, maintenant, ça se répare très bien. Ouais. Et les moteurs de recherche français comme Lilo et tant d'autres. Voilà.
Merci beaucoup Valérie, merci beaucoup Julie Martin. On posera la question à Frédéric Bordage dans un instant. Trop de mails, vraiment ? Est-ce que vraiment ? Alors, on comprend très bien ce que ça veut dire en termes de stockage, mais est-ce que vraiment ça joue en fait ? Si on le compare, ça joue à quel niveau ? Est-ce que c'est
Ça participe toujours un peu. Je crois que l'empreinte carbone d'un email tout simple, c'est 4 grammes de CO2. C'est pas énorme, mais il y a 300 milliards d'emails à peu près qui sont envoyés chaque jour dans le monde. Donc forcément, quand on multiplie, ça commence à faire beaucoup. D'autant qu'effectivement, on n'a pas tous les bons réflexes d'usage, parce que quand on commence à mettre des pièces jointes, ou simplement quand on commence à souhaiter, à se dire merci ou à se dire bon week-end par mail, on se rend pas compte qu'en fait, cet email qu'on envoie à notre voisin de bureau, il parcourt parfois jusqu'à 10 000 ou 15 000 kilomètres dans les méandres d'Internet, qui va être effectivement analysé par la messagerie de départ pour savoir s'il y a des problèmes dans l'adresse email, etc., qui va être effectivement stocké une voire plusieurs fois, en fait, parce qu'encore une fois, les centres de données sont souvent dupliqués pour garantir que même en cas de panne dans un centre de données, on ait une continuité d'accès à Internet. Donc en fait, c'est vrai que c'est pas encore une fois ce qui révolutionnera le plus tout, parce que on reste vraiment sur l'impact des appareils qui lui est vraiment le plus fort. Mais néanmoins, il y a un moment où il va falloir faire un peu des économies partout.
Ça correspond à mettre un papier gras dans une poubelle au lieu de le jeter par terre. Ça changera pas la face du monde, mais c'est déjà le bon geste à avoir. Frédéric Bordage, qu'est-ce qu'on dit là-dessus sur sur notre usage en fait? Parce que moi, on a déjà fait des émissions autour de ce thème-là. On entend tout le temps penser à effacer vos mails, aller chercher les spams pour les enlever, etc., des boîtes mails. Est-ce que tout ça a vraiment... est-ce que ce sont des réflexes qu'on doit avoir au même titre qu'on trie nos déchets, en gros, en fait ?
Je suis obligé de faire une réponse à deux niveaux. Symboliquement, c'est intéressant, parce que symboliquement, ça veut dire qu'on s'intéresse au sujet et qu'on va... chercher à mettre en œuvre des actions, des bonnes pratiques au quotidien pour réduire notre empreinte numérique. Mais c'est symbolique. Une fois qu'on a réalisé toutes les études qui sont celle de l'ADEME et l'ARCEP, qui est l'étude officielle en France sur l'impact du numérique officiellement en France, en Europe, au niveau mondial, etc. Donc on connaît vraiment très bien le sujet. Clairement, 80% de nos impacts sont liés à la fabrication des équipements, 20% à la production d'électricité. Et après, ce qu'on fait avec notre ordinateur une fois qu'il est allumé, ça change plus grand-chose. Et c'est mon deuxième niveau de réponse. Ça, en fait, ça change plus grand-chose à l'instant T, concrètement. Que vous supprimiez vos mails ou que vous les supprimiez pas, honnêtement, entre nous, c'est un détail. Par contre, le sujet, c'est que si effectivement tout le monde cherche, par exemple, à regarder des vidéos en streaming en 4K en même temps, alors on va boucher les tuyaux de l'Internet, il faudra passer de la 5G à la 6G, à la 7G, à la 8G, et donc on va devoir déployer un réseau physique dans le monde entier, la France, l'Europe, etc. Effectivement, si on envoie des mails inutiles, on va finir par surcharger des serveurs, et donc il faudra rajouter des serveurs, des disques durs, etc. Donc c'est d'abord une question d'hygiène au quotidien, d'hygiène numérique. C'est en adoptant un rapport raisonnable, parce que raisonner au numérique, replacer le numérique à sa place, en faisant pas n'importe quoi avec cet outil, qu'on va pouvoir réduire efficacement notre empreinte. Mais disons-le clairement, c'est pas la suppression de nos petits mails au quotidien qui va changer quoi que ce soit dans l'absolu.
Exactement, comme c'est pas mettre mon papier dans une poubelle qui changerait quelque chose dans l'absolu. Mais enfin, après tout, pourquoi ne pas le faire? Puisqu'on parlait avec vous, Frédéric Bordage, il y a un tout petit instant, de 5G, 6G, aller voir au-delà. Ça nous emmène à la question de Frédéric. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir à Inter. Oui, ma question ne sera pas technique, mais plutôt généraliste. Le président Macron nous a expliqué que si l'on renonçait à la 5G, on allait revenir au stade des Amish, qui sont d'ailleurs pas si fous que ça, pour certains. Moi, ce qui m'inquiète, c'est cette capacité à refuser de renoncer à quoi que ce soit, non seulement à ce que l'on a, mais même à ce que l'on n'a pas encore. Alors ma question, c'est de demander à nos intervenants si, en fin de compte, ce n'est pas l'excès de 5G, de métaverse, de production de matériel qui risque de nous ramener à l'état de la bougie.
Merci beaucoup pour votre question, Frédéric. Julie Martin, est-ce qu'il faut renoncer à des choses, en fait? Est-ce qu'il faut être décroissant numérique? Parce que c'est de ça dont nous parle Frédéric.
C'est pas une question si évidente. En fait, il y a des pans de nos sociétés qui reposent énormément sur le numérique et dont les progrès qui sont importants pour tous, je pense notamment à la santé par exemple, nécessitent sans doute qu'on continue à progresser dans l'univers du numérique. Après, effectivement, je l'entends, on parle beaucoup notamment concernant la 5G, il y a une forme de... On parle de neutralité de la 5G en se disant que ça va fluidifier les échanges et que au final, l'impact énergétique sera à peu près régulé.
Éviter les saturations, etc.
Voilà, mais sachant qu'en fait, la 5G va arriver, mais ça ne supprime pas les autres réseaux qui sont toujours en cours d'utilisation parce qu'il y a toujours des équipements qui existent là-dessus. Si ça veut dire qu'en plus derrière il va falloir qu'on upgrade tous nos équipements électroniques, ça ramène aussi un problème à l'arrivée de la 5G. Il y a notamment aussi un effet rebond qui est qualifié comme ça parce qu'en gros quand une technologie fonctionne mieux ou devient plus efficace, on a tendance à l'utiliser plus. Et donc les pays dans lesquels la 5G est arrivée, on a montré qu'il y a une augmentation du trafic de données parce qu'effectivement ça fonctionne mieux, donc on l'utilise plus facilement, qui va à terme effectivement finir par saturer les réseaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui va nécessiter finalement que l'infrastructure d'Internet reprenne un peu de la force. Donc c'est voilà, je pense qu'il y a, ça va avec ce côté un peu comment est-ce qu'on raisonne aujourd'hui nos usages d'Internet. Il y a peut-être un arbitrage à un moment à faire au niveau de ce qui est nécessaire en termes de progression et là où il faut devenir plus sobre.
Et ce qui est nécessaire, il y a qui, Frédéric Bordage? Est-ce que ça aurait un sens en fait? Parce qu'effectivement, la 5G, c'est pas seulement pouvoir télécharger un film qu'on regardera ce soir plus rapidement. Ça n'a rien à voir. On parle de santé, on parle de fluidité de réseau, etc., qui servent évidemment à de très grandes entreprises qui nous sont évidemment nécessaires. Est-ce qu'on se dit que donc l'une des clés, c'est de décider de qui a besoin de telle forme de débit à un moment? Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose comme ça pour essayer de nous restreindre? Est-ce que c'est une piste ou pas du tout?
Bah, ça me semble assez illusoire de décider qui peut utiliser combien de débit
aussi,
sur l'Internet. Ça me semble très difficile d'un point de vue démocratique. L'enjeu, c'est plutôt de faire le tri entre le numérique utile et le numérique inutile, entre le numérique qui est mal consommé, qui est mal utilisé, et le numérique qui est important, du numérique qui permet de modéliser le climat, de passer un scanner, etc., de former nos enfants C'est absolument indispensable. Et si on veut que ce numérique, on en a encore dans 30 ans, parce que l'échéance, c'est quelques décennies, hein, concrètement, si on veut en avoir encore dans 30 ans, alors bah, il faut économiser cette ressource, puisqu'on fabrique nos ordinateurs avec des métaux, des minéraux qui sont en train de s'épuiser à très grande vitesse. Et donc, pour économiser cette ressource et disposer d'un numérique utile, alors la société, à un moment, va devoir faire un choix, mais de façon démocratique, sur quels sont les usages utiles ou inutiles.
Mais alors c'est
est-il,
on peut avoir
est-il
un exemple
possible d'augmenter indéfiniment la taille des écrans qui trônent fièrement au milieu du salon, tout en sachant que ça va handicaper la capacité de nos enfants à soigner grâce au numérique. C'est un choix de société.
Et le numérique inutile, donc, c'est quoi, en fait, au-delà de la taille des écrans dont vous parliez aujourd'hui, c'est quoi?
Alors, c'est deux choses. C'est ce que le peuple, ce que la société, la civilisation décidera, et je me garderai bien de juger de ce qui est utile ou inutile, mais c'est aussi ce qui est de fait qu'on peut remplacer par autre chose. Nous, on a développé un mouvement qui s'appelle la slow tech, qui vise à associer de la low tech et de la high tech, c'est-à-dire associer du numérique avec des technologies qui sont bien moins évoluées, mais qui font le job. Et typiquement, on arrive comme ça à remplacer des smartphones par des tableaux noirs et des craies. On arrive à remplacer le protocole 5G, enfin la 5G en fait, par simplement de la 2G et un SMS. Donc d'un côté, vous avez une appli dernière génération sur un smartphone dernière génération en 5G, et puis de l'autre, bah, vous avez un vieux Nokia 3210 qui a 20 ans, qui fonctionne en 2G, et ça rend le service. Ça rend exactement le même service. Donc, si on arrête de penser que la solution est forcément technologique et forcément la toute dernière technologie, et qu'on commence à se réapproprier l'ensemble des technologies qui existent, même ce qu'on appelle la low-tech, alors on est tout à fait capable de répondre à des besoins très importants, critiques, vitaux, cruciaux, avec des vieilles technologies de type 2G, de type SMS, etc. Et donc, c'est le fait de décliver notre pensée, d'associer de la low-tech et de la high-tech qui va nous permettre d'économiser du numérique pour qu'on en ait encore, pour se soigner, modéliser le climat, etc.
Mais je trouve ça passionnant ce que vous nous dites, Frédéric Bordage, mais du coup, là où je m'interroge, c'est, je comprends très bien que, après tout, la 2G suffit pour envoyer des SMS, etc., mais qui peut décider et qui pourra dire à l'avenir que certaines catégories de gens n'ont pas besoin de 5G dans leur usage? C'est tout aussi complexe que l'idée de décider de qui a le droit de d'avoir accès à quoi, en fait. C'est pas moins difficile que ce qu'on suggérait juste avant.
Tout à fait, mais nous on essaye de faire comprendre aux entreprises qui sont un des gros moteurs du numérique, hein, je veux dire aujourd'hui derrière le développement du numérique, pour rebondir un petit peu sur la question de l'auditeur, derrière le développement du numérique il y a des enjeux économiques et surtout des enjeux pour les acteurs du numérique. Donc nous on démontre à des entreprises qui font des profits, qu'elles peuvent faire plus de profits en utilisant moins de technologie. Donc en utilisant typiquement de la 2G et des SMS. Et d'ailleurs, certaines sont capables. Il y a une démonstration que j'adore, c'est la SNCF qui vous impose d'avoir un smartphone dernière génération pour pouvoir passer le portique à la gare de Lyon, sinon vous pouvez pas prendre votre train. Et en même temps, la veille, quand vous prenez un TGV, ils vous envoient par SMS votre place dans le train. Ce qui montre qu'une même entreprise est capable du pire et du meilleur au niveau de son rapport au numérique.
Alors, donc, pardon.
Il y a vraiment moyen de créer plus de valeur ajoutée tout en utilisant des technologies qui ont moins d'impact environnementaux et qui nous permettent d'économiser de la ressource numérique.
Il y a des questions dans ce sens-là, Julie Martin, il y a celle-ci, c'est celle d'Isabelle sur franceinter.fr qui nous dit on nous impose quasiment partout d'envoyer nos tickets de caisse par mail, par exemple. Moi, personnellement, je refuse à chaque fois, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut préférer le papier ou est-ce qu'il faut préférer l'email? Il y a l'exemple de la SNCF, mais pas seulement, que donnait Frédéric Bordage à l'instant, qui revient aussi dans les questions. On a cette autre interrogation sur franceinter.fr qui dit dans la pratique, j'utilise ma boîte mail pour l'administratif ou l'associatif. Pour la famille, je communique par WhatsApp. Est-ce que c'est pareil ou est-ce que je suis dans les clous, en fait? Qu'est-ce qu'on peut répondre à notre ami?
C'est pas. Non, il y a plein de questions déjà. Ouais. Le premier point, alors, on a pour coutume de dire que un support, plus il a pour vocation à vivre dans le temps et à être consulté par beaucoup de gens, mieux, plus il a d'intérêt à être analogique, en fait.
D'accord.
En gros, il vaut mieux le papier si c'est quelque chose auquel il faut qu'on se réfère régulièrement. Voilà, ça, c'est un premier élément de réponse. Après, sur.
Ça dépend à combien de personnes on le distribue.
Ça dépend à combien de personnes
on le distribue. Il faut tuer une forêt pour.
Mais après, effectivement, si on doit s'y référer plusieurs fois, ça va devenir plus intéressant, en fait, de reprendre un bouquin, par exemple.
D'accord.
Plutôt que de reconstruire consulter un site. Okay. Après, effectivement, sur la deuxième partie concernant par quelle messagerie, il faut quand même faire la différence entre les messages qui vont être des messages vidéo, des messages photos, des messages qui vont passer par les réseaux téléphoniques ou des messages qui vont passer par les réseaux satellites ou qui vont passer par les réseaux internet. Ça n'a pas du tout les mêmes, ça n'a pas du tout les mêmes impacts environnementaux. Mais après, encore une fois, ce qui au-delà des gens de savoir si oui ou non il faut qu'ils disent OK à leur ticket de caisse, je pense qu'il y a une espèce de débauche et de mode, et il y a un truc de façade aussi dans le numérique à se dire qu'on a la dernière appli et qu'on peut effectivement scanner son ticket de train.
Ce qui est une manière aussi de faire du greenwashing, puisqu'on vous dit, ah ben chez nous, regardez, il n'y a pas de ticket de caisse en papier, on va vous l'envoyer directement par mail, mais à la fin, pardon de le dire comme ça, qui gagne en fait, entre j'ai pas mon ticket en papier que je vais peut-être jeter effectivement n'importe comment, ou et qui aura tué une forêt, ou envoyez-le-moi par mail.
Tout va dépendre aussi de à quel point, au bout d'un moment, on va devoir, encore une fois, changer nos appareils électroniques et prendre les appareils électroniques dernière génération pour continuer à utiliser ce qui est de l'ordre du service public aujourd'hui quand on se déplace, par exemple, et au-delà de l'usage du mail.
Voilà, et par exemple, parce que il y a aussi des mails dans ce sens-là, donc désormais, on ne trouve plus jamais un ticket de train ou de métro, etc. Ça n'existe plus. Tout a été dématérialisé. On est à 24 heures de la fin des déclarations d'impôts, par exemple. On sait que les déclarations d'impôts se font toutes, de toute façon, désormais numériquement. Donc, est-ce qu'il faut imaginer, je vais vous poser la question aussi, Frédéric Bordage, juste après, est-ce qu'il faut imaginer, Julie Martin, qu'à un moment, on revienne en arrière, en fait, qu'il ne serait pas une forme de retour en arrière en soi, enfin j'en sais rien, mais qu'on se dise, pour certains usages, on va revenir au fond à cette bonne vieille matérialisation et bon vieux papier, parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Il y a peut-être la rematérialisation d'un côté. Il y a ce que disait Frédéric tout à l'heure aussi sur l'alliance entre le dernier cri high-tech et quelque chose d'un peu plus low-tech, qui va peut-être aussi nous permettre d'arbitrer, encore une fois, de se dire est-ce que j'ai besoin, remplir. Il y a des enjeux, évidemment, quand on se parle de déclaration d'impôt, il y a des enjeux de sécurisation des données, etc. Mais est-ce qu'on a besoin d'une technologie dernier cri après pour pouvoir y avoir accès? C'est une question d'arbitrage, encore une fois. Je suis pas sûre que revenir au tout papier soit forcément non plus la solution. Mais en tout cas, faire la course au dernier cri, à l'utilisation du dernier cri technologique pour finalement la moindre de nos interactions dans la société, c'est pas la solution non plus, c'est sûr.
Frédéric Bordage, là-dessus, en effet, pas forcément un retour en arrière qui n'aurait pas de sens, en fait, mais quelque chose de plus raisonné, en effet, c'est ce que vous disiez aussi précédemment.
Oui, tout à fait. Quand on a défini la sobriété numérique, l'idée c'est d'avoir un rapport raisonnable, un usage raisonné en fait, parce qu'on a un rapport raisonnable au numérique. Et pour compléter la réponse de Julie Martin, je pense qu'il y a aussi une autre dimension qui est celle du modèle. C'est-à-dire que c'est pas la tablette ou la liseuse ou le livre qui sont les plus performants d'un point de vue environnemental, c'est le modèle d'accès, c'est la bibliothèque finalement. Et on pourrait étendre ce raisonnement au ticket de caisse et à bien d'autres domaines, comme par exemple le fait que chacun possède une box chez soi, alors qu'on a une seule grosse box dans son entreprise. Donc, au-delà des supports et de souvent le fait d'opposer le papier aux octets, etc. Un des points clés, ça va être de repenser le modèle, de faire différemment. Typiquement, on n'a peut-être pas du tout besoin d'aucun ticket de caisse en dessous d'un certain montant. Et peut-être que pour que le ticket de caisse ait moins d'impact, alors je vais aller le générer à la demande sur un portail utilisateur uniquement quand c'est très important. Donc c'est vraiment une question, avant de penser le support, c'est une question de modèle, je pense, la plupart du temps. Et l'exemple du livre, de la liseuse et de la bibliothèque est très parlant, je trouve, dans ce domaine-là.
Sur l'appli France Inter, Christophe nous dit « Arrêtez, s'il vous plaît, de parler d'email. Ça fait belle lurette que les jeunes ont abandonné. Ils s'échangent sur Insta, ils se disent bonjour, bonsoir avec une vidéo ou un selfie, ce qui est une réalité. Mais après, le monde de l'entreprise fonctionne quand même beaucoup par email et c'est ça qui en génère le plus, Julie Martin. Mais alors, vous donnez des petits exemples assez marrants dans votre livre quand même. Est-ce que c'est vrai que scroller sur les réseaux sociaux, c'est comme rouler en SUV avec la clim et les fenêtres ouvertes, sérieusement ?
Alors, ça va dépendre évidemment de combien de temps on scrolle, mais en fait, c'est vrai que ce dont sont le
scroller pour mon père qui nous écoute peut-être et qui ne sait pas ce que ça veut dire, c'est vraiment juste regarder si les interactions qu'il y a eu sur Twitter. Là, je suis en train par exemple, à qui je fais du mal en scrollant au moment où je vous parle.
En fait, c'est vrai que c'est alors ce geste d'ailleurs c'est il y a l'ingénieur de la Silicon Valley qui s'appelle je crois Azar Atkin qui a inventé le scroll, donc c'est effectivement quand on balaye l'écran avec le pouce et qu'on descend. Il s'en mord un peu les doigts aujourd'hui parce qu'en fait finalement, il a créé une espèce de puissant fond sur lesquels on peut rester pendant des heures. Et il y a un chiffre, je crois qu'en France, on scrolle en moyenne 141 mètres par jour sur nos smartphones. Ça fait plus qu'un terrain de foot, donc c'est quand même beaucoup. En fait, c'est des phrases qu'on utilise un peu comme ça pour créer un petit choc de conscience auprès notamment des plus jeunes, parce que finalement, c'est des générations qui sont super engagées contre le réchauffement climatique et qui décrit un peu les usages des générations précédentes, comme typiquement les voitures thermiques ou manger trop de steak, etc. Et qui se rend pas compte finalement que dans ses propres usages, il y a aussi une partie du problème. Et c'est vrai que finalement, quand Internet même est arrivé il y a une vingtaine d'années, quand ça s'est vraiment démocratisé, même dans le milieu de l'entreprise, on s'est dit que c'était une super solution parce qu'on allait consommer moins de papier. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'est pas du tout sans conséquence. Donc, quand on scrolle sur les réseaux sociaux, on fait finalement, on interroge sans arrêt le serveur de l'application sur laquelle on se trouve. On crée des interactions qui sont stockées dans les data centers de ces applications-là, de ces services-là. Donc oui, en fait, c'est vraiment pas anodin de scroller.
Alain est avec nous. Bonsoir, Alain.
Bonsoir.
On vous écoute, Alain.
Voilà, j'ai devant les yeux la photo que j'ai prise d'un panneau qui informe d'un permis de construire pour un data center en construction à côté d'Evry. Je lis que pour ce data center, la société est autorisée à installer une puissance nominale de 798 mégawatts thermiques de groupe électrogène dans un but de sauvegarde, en sachant qu'une tranche nucléaire PWR de première génération, c'est 900 mégawatts. Je suis effaré.
Merci.
C'est-à-dire que lorsque les groupes électrogènes, pour des questions de sauvegarde de ce data center, vont démarrer, la puissance thermique consommée sera celle sera 80% de celle d'une tranche nucléaire.
On a compris, on a bien entendu vos chiffres, Alain. Merci beaucoup. Frédéric Bordage, dans une émission précédente, je me souviens d'un internaute qui nous avait écrit en nous disant les data centers, ce sont les nouveaux abattoirs, c'est-à-dire ces endroits qui existent partout, mais dont on ne veut pas savoir qu'ils existent et surtout comment ils fonctionnent. Est-ce que oui, l'un des problèmes vient plein de là. On a parlé des fermes de Bitcoin tout à l'heure. Enfin, tout ça et tous ces data centers, c'est une débauche d'énergie qui est colossale. Est-ce que c'est évitable? Est-ce qu'on peut baisser cette débauche-là ou pas?
Alors, oui, on peut baisser cette débauche d'énergie, mais en fait, il faut bien se rappeler que 80% des impacts environnementaux du numérique en France sont liés à la fabrication de nos équipements. Que finalement, la consommation les data centers, c'est 20% des impacts. Et 80% des impacts, ce sont les utilisateurs, rappelons-le quand même. Donc, oui, à un endroit donné, on va concentrer une très grosse quantité d'ordinateurs avec une très grosse quantité d'électricité, mais qui, si on la remet en perspective par rapport à l'ensemble du numérique, ne représente que 20% des impacts. Ceci dit, oui, on a beaucoup de techniques aujourd'hui qui permettent de réduire la quantité de data center, la quantité de serveurs qui sont nécessaires. C'est ce qu'on appelle l'éco-conception des services numériques. Comme on éco-conçoit une voiture ou une habitation, on peut éco-concevoir un service numérique, c'est-à-dire l'ensemble des traitements, des données, des ordinateurs qui vont fournir le service pour trouver l'horaire d'un train, prendre rendez-vous chez le médecin, etc. Et donc, aujourd'hui, on a démontré en France, au travers d'un certain nombre de retours d'expérience concrets, qu'on pouvait diviser jusqu'à un facteur 70 la quantité de serveurs nécessaire pour délivrer exactement la même valeur ajoutée, c'est-à-dire prendre rendez-vous chez le médecin, trouver l'horaire du train, etc. Et donc, on a aujourd'hui des techniques qui permettent de réduire la part des data centers dans notre empreinte numérique. C'est très intéressant parce que ces techniques, elles permettent aussi d'allonger la durée de vie de nos smartphones. Comme on allège finalement le service auquel on accède, eh bien on va pouvoir accéder plus longtemps avec un vieil ordinateur ou un vieux smartphone au service qui permet de prendre rendez-vous chez le médecin ou de réserver un billet de train.
Il nous reste une minute, Baptiste, je vous fais confiance, et parce qu'il faudra aussi que la réponse aille derrière. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, c'était pour juste préciser qu'on peut faire beaucoup de progrès sur l'environnement grâce à toutes ces nouvelles technologies, l'utilisation de drones au lieu des hélicoptères, le télétravail. Donc il y a un gros potentiel dans le numérique et il ne faut pas non plus passer à côté. C'est sûr, il y a des progrès à faire dans la consommation des data centers, etc. Mais il y a aussi plein de solutions comme utiliser la chaleur dégagée des data centers pour chauffer les habitations autour. C'est de l'électricité gratuite et qu'on perd complètement, par exemple, quand on a un grille-pain ou un radiateur électrique chez soi. Mettre en perspective tout ça.
Bien sûr, merci beaucoup Baptiste. Et c'est vrai, c'est comme je le disais tout à l'heure en introduction, on ne va pas se mettre à pédaler pour être connecté parce que ce n'est pas comme ça que les choses vont avancer. Est-ce qu'on l'a fait ce ratio, Julie Martin, ou est-ce que c'est impossible à faire en fait, de voir ce qu'on gagne en termes d'environnement entre aller travailler, donc il y a la voiture, il y a tout ça, et en même temps, quand on ne va pas travailler, certes on utilise plus de data, mais on n'a pas polluer l'atmosphère. Il existe ce ratio-là?
C'est super. Alors, il y a l'ADEME qui a sorti une étude justement sur les impacts positifs ou négatifs du télétravail. Et en fait, il y a plein de choses à prendre en compte derrière ça. Alors, évidemment, on fait moins de trajets en voiture chaque jour, donc il y a moins de congestion routière, donc ça, c'est plutôt bien. En revanche, il y a plus de week-ends un peu loin de 3 jours. Ouais. Il y a des gens qui ont dû s'équiper en matériel électronique ou qui ont agrandi leur habitation. Et ça a un impact plutôt négatif, entre guillemets, sur l'empreinte carbone.
C'est que le début, rien ne nous empêche d'essayer d'être le plus responsable possible. En tout cas, vous, ce que vous écrivez, que ce collectif aux éditions 404, ça s'appelle « Cliquer, c'est polluer », à mettre entre les mains quand même des petits jeunes. Merci beaucoup.